Est-ce que tu peux entendre ton père qui te dit, si tu savais à quel point je t'aime, si tu réalisais à quel point je t'aime. Et quand nous sommes dans la louange comme ça, nous venons lui dire, mais papa, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Il y a quelque chose de si puissant là-dedans. Mes amis, le christianisme est révolutionnaire. Le christianisme est révolutionnaire. Jésus est un révolutionnaire. Vous croyez? Vous savez pourquoi Jésus est un révolutionnaire? Une révolution, c'est quand on change du tout au tout. Hein, il y a un changement brusque de régime, par exemple, politique. Il y a un changement brusque dans l'économie, la révolution industrielle. Et Jésus est un révolutionnaire. La révolution du christianisme, de ce que Jésus apporte, c'est justement quoi? Que Dieu est un père. Que Dieu est un père. Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution à l'époque. C'est une révolution encore aujourd'hui. C'est une révolution à l'époque quand Jésus vient avec ce message, mais votre Dieu, c'est votre père. Et d'ailleurs, c'est une révolution aussi parce qu'il vient dire au peuple juif, à son peuple, votre père veut aussi être le père de tout être humain. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa nation, quelle que soit sa culture, il veut être le père de tout être humain. Et ça c'est difficile à entendre. Tellement on a peur de manquer de respect à Dieu en étant trop familier. Et pourtant, Jésus vient nous dire à quel point Dieu est notre Père. Et par la suite, ces apôtres vont poursuivre son enseignement. Tous ces apôtres, la plupart de ces apôtres, quand on lit la Bible, quand on lit ce qu'ils ont écrit, nous parlent de Dieu en tant que Père. C'est le cas, par exemple, de Paul. Et je vais lire un passage, le passage sur lequel je vais me pencher ce matin avec vous, qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains, la lettre que Paul adresse aux Romains, et c'est au chapitre 8, les versets 14 à 17. Je vais vous le lire, donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Donc c'est Romains 8, le verset 14 au verset 17. Paul l'affirme, pour vous situer le contexte de ce que Paul dit, Paul n'a jamais rencontré les chrétiens de Rome. Il y a beaucoup de chrétiens à qui il a écrit, dont on a les lettres, il les a rencontrés, il les connaît. Les chrétiens de Rome, il ne les connaît pas. Il veut se rendre en Espagne et il veut faire étape à Rome. Et comme il ne les connaît pas, il se présente. Et cette lettre, c'est une lettre où il se présente, où il présente qui il est et aussi quel est son service pour Dieu, et il présente ce qu'il croit, ce qu'il a compris, ce qui lui a été révélé. C'est pour ça que si vous voulez comprendre bien ce que dit le message de l'Évangile, l'Épître aux Romains nous le dit. Paul, juste avant 14-17, chapitre 8, 14 à 17. Et tous les chapitres qui précèdent, Paul est en train d'expliquer que tout homme est pécheur. Tout homme est voué à la mort. Tout homme est coupé de Dieu. Tout homme a besoin du salut. Le salut, c'est un besoin qui est universel. Universel. Et celui qui apporte le salut, c'est Dieu qui est venu en chair, c'est Jésus-Christ. Mais si Dieu est venu par Jésus apporter ce salut, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? C'est justement parce qu'il est Père. C'est justement parce qu'il est Père et qu'il veut qu'on soit avec lui dans l'éternité. Il veut qu'on fasse partie de sa famille, il veut que tu fasses partie de sa famille. Et voilà ce que dit Paul, donc à partir du verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés par lui. Est-ce que tu crois que Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu est Père ? Vraiment ? Est-ce que vous croyez que Dieu est votre Père ? Vraiment ? Oui. Ça peut sembler évident comme ça, quand on connaît en plus Jésus-Christ depuis des années. Mais est-ce que c'est si évident que ça ? Est-ce que c'est si évident que ça de considérer Dieu comme notre Père ? C'est ça le titre de ce message ce matin. Crois-tu que Dieu est ton Père ? Effectivement, le premier point, c'est en Jésus-Christ, quand nous accueillons Jésus-Christ dans notre vie, quand effectivement on réalise qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien faire sans Dieu, on ne peut rien faire sans lui. Tout ce qu'on essaye de faire, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire le bien qu'on voudrait faire. On n'arrive pas à faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. On n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Et on a besoin de Jésus-Christ. Et quand on réalise ça et qu'on accueille Jésus, Dieu nous adopte. Dieu nous adopte en tant qu'enfant légitime. Et il devient notre Père. Est-ce que tu peux laisser le passage de rien affiché ? Dieu nous adopte et il devient notre Père. Effectivement, qu'est-ce que nous étions avant d'être sauvés ? Qu'est-ce que la Bible dit que nous étions ? Alors des païens, on est toujours des païens. Des païens convertis, quand on n'est pas juif. Des pécheurs, ouais. On était des enfants de qui ? Oui, il y a différentes expressions comme ça, des enfants de colère. C'est étonnant cette expression, enfant de colère. Moi, je suis enfant de Joël et Brigitte Bioret, ce sont mes parents. Enfant de colère, ça veut dire que la colère est notre parent. La colère comme un parent. Ça veut dire, c'est quoi cette colère ? Cette colère, c'est cette colère qui nous sépare de Dieu, c'est cette colère que l'on peut avoir envers Dieu, c'est ce qui nous coupe de Dieu parce que voilà, c'est cette colère qu'on peut avoir envers le monde, c'est cette colère qu'on peut avoir envers les autres, c'est cette colère qu'on peut avoir envers soi. Et c'est comme si ça venait teinter toutes nos actions, toutes inspirées, tous nos actes, les enfants de colère. Effectivement, il dit aussi, à un moment aux Juifs, vous êtes des enfants du diable. Et ça se concerne tout homme, toute femme, des enfants du diable, le diable qui est menteur, le père du mensonge, et vous mentez comme lui. Qui est-ce qui ne ment pas ? Qui est-ce qui n'a jamais menti ? Pas moi. Effectivement, nous avons des actes, des comportements qui traduisent quand nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous pouvons croire en Dieu. Nous pouvons croire que Dieu existe, mais si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ dans notre vie, ça ne veut pas dire que Dieu est notre Père. Alors c'est quoi ? Et effectivement, c'est quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie que l'on devient enfant de Dieu, enfant légitime de Dieu, que l'on est adopté. C'est quoi l'adoption ? Alors je vous avais préparé tout un petit truc visuel, mais on va faire sans. C'est quoi l'adoption ? On va faire un petit peu de théologie. Rassurez-vous, partez, fuyez pas en courant, hein. Je vous rassure, ça fait pas mal. Hein. Le dentiste, quand il vous dit ça, vous pouvez ne pas le croire, mais là, moi, vous pouvez me croire. Ça ne fait pas mal. L'adoption, c'est quoi ? L'adoption, déjà, qu'est-ce que ce n'est pas, l'adoption ? L'adoption, ce n'est pas la régénération. La régénération, c'est quand nous, en fait, avant de rencontrer Jésus, notre esprit, l'esprit, c'est ce qui nous permet d'être en lien avec Dieu, notre esprit était mort. Alors, on a un corps, on a une âme qui fonctionne, on a des émotions, etc., des pensées, mais l'esprit, ce qui nous relie à Dieu, c'était mort. Et Dieu vient nous, quand nous accueillons Jésus-Christ, son esprit vient régénérer notre esprit. Nous sommes rendus spirituellement vivants alors que spirituellement nous étions morts. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Les anges, ils sont spirituellement vivants. Ce sont des créatures spirituellement vivantes. Mais les anges ne sont pas héritiers de Dieu, co-héritiers, comme nous le sommes. L'adoption, ça n'est pas non plus ce que la Bible appelle la justification. C'est quoi la justification ? C'est que quand on est rendu juste devant la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu, elle nous condamne. On ne peut pas l'accomplir. En tant qu'humain, pécheur, on ne peut pas l'accomplir. Et nous sommes rendus justes devant Dieu, c'est comme si nous étions, quand nous allons passer devant le tribunal de Dieu, eh ben, Dieu il va voir Jésus en nous et on va dire, il n'y a pas de problème. Dieu voit que nous sommes justes parce que Jésus est en nous. Mais ce n'est pas ce qui fait qu'on est enfant de Dieu. On pourrait tout à fait imaginer que Dieu se soit arrêté là. Et l'adoption, c'est ça qui, c'est vraiment une preuve de l'amour de Dieu. C'est que Dieu, il n'a pas voulu s'arrêter là. Il n'a pas voulu s'arrêter à nous régénérer spirituellement. Il n'a pas voulu s'arrêter à nous rendre justes. Non, il a voulu que nous soyons ses enfants légitimes, que nous soyons adoptés. C'est ça l'adoption. L'adoption, c'est ce qui fait qu'on a des privilèges que nous n'aurions pas si nous n'étions pas adoptés, que nous n'aurions pas si nous n'étions pas enfants de Dieu. Et ce privilège, c'est déjà de considérer Dieu comme un père et pas seulement Dieu. Pas seulement notre Dieu, pas seulement un maître, pas seulement un Seigneur, mais aussi un père. Un père avec qui, oui, la relation avait été brisée avec Dieu, mais comme c'est un père, eh ben, la relation, elle peut se rétablir, elle peut se reconstruire. On peut vivre cette relation avec le Père qu'il est. On a comme privilège que l'on est héritier. On est héritier. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Jésus, puisqu'on est co-héritier avec lui, ça, et qu'est-ce qui appartient à Jésus ? C'est tout. C'est tout. C'est le ciel, c'est la terre. Et nous héritons de tout cela. Nous hériterons de tout cela quand nous serons ressuscités avec Jésus. Nous sommes héritiers. Nous avons un Père qui nous corrige aussi. Et c'est bon d'être corrigé, parce qu'on ne marche pas toujours sur le droit chemin, et heureusement, on a un Père qui nous dit « Bah ça ne va pas, ça va, continue comme ça. » Il nous corrige, ça veut dire qu'il nous encourage aussi. Nous avons un Nous devenons membres d'une même famille. Ça, c'est un privilège aussi. Nous devenons membres d'une même famille. Nous pouvons nous encourager les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. Combien de fois, quand on rencontre un chrétien, quand je rencontre un chrétien que je ne connais pas, il y a ce sentiment que, voilà, on se connaît en fait, on fait partie de la même famille, c'est tout de suite là, quoi. Le lien, il est tout de suite là. On fait partie de la même famille. Il nous donne une famille. Et l'autre privilège, c'est qu'on est conduit par le Saint-Esprit. On est conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient inspirer, qui vient pour inspirer nos actes, nos actions. Ce n'est plus la colère, ce n'est plus la querelle, ce n'est plus la discorde, ce n'est plus l'amertume. C'est l'Esprit qui vient pour inspirer nos actions, nos choix. Et un des plus merveilleux privilège, je trouve, c'est qu'on a un modèle. On a un modèle à qui on peut s'identifier. On est encouragé à imiter ce Père que Jésus nous révèle. Jésus nous montre c'est qui le Père. Il nous montre au travers de ses actes, au travers de sa manière d'être. Et on a un modèle à qui s'identifier. Tout ça, ce sont des privilèges que nous n'aurions pas si Dieu s'était arrêté à la régénération, justification, et n'était pas allé jusqu'à l'adoption. Alors effectivement, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Nous sommes adoptés. Nous sommes des enfants adoptifs. Moi, j'ai vraiment éprouvé cette paternité de Dieu dans la manière dont j'ai rencontré Dieu. Quand un jour, voilà, j'entrais dans une église pour la première fois, en tout cas une église évangélique, et dans le culte, j'étais tellement touché par l'amour qu'il y avait dans les louanges que les hommes et les femmes qui étaient là adressaient à ce Dieu. J'étais tellement touché par cet amour qu'à un moment, cet amour, il a été si fort que je me suis senti comme enveloppé par cet amour. Et à un moment, c'est comme si j'étais mais seul avec Dieu, seul avec cette présence. Je ne le voyais pas, mais je sentais cet amour et je sentais un amour de père qui me montrait son cœur, qui me disait « Ben voilà, tu as vécu ta vie loin de moi jusqu'à présent, tu as fait tes choix sans moi. » Et voilà ce que ça m'a fait. Et je sentais sa tristesse. Et j'éprouvais sa tristesse dans mon cœur. Et puis il me dit « Mais tu peux revenir maintenant. Tu peux revenir à la maison. Je suis ton père. » Je suis ton père et tu es mon fils. Tu peux devenir mon fils. » Et là, je dis oui, oui, je reviens. Et j'éprouvais cette joie et en même temps, je sentais sa joie. En même temps que la tristesse, c'était vraiment complètement fou. Mais je peux témoigner que Dieu est un père. Je peux témoigner que je l'ai vécu dans mes tripes. Je peux témoigner que Dieu est un père. Mais parfois, il y a des choses qui peuvent se passer dans notre vie qui peuvent nous faire douter de cela. Pourquoi, finalement, est-ce que Paul, et c'est là-dessus que je vais me concentrer, pourquoi est-ce que Paul dit aux Romains, mais vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa, Père ». Pourquoi est-ce qu'il vient préciser cela ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire cela ? Alors qu'il aurait pu très bien dire « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Mais non, il vient préciser aux Romains « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, de servitude, mais un esprit d'adoption. » C'est quoi cet esprit de servitude ? C'est quoi cet esprit d'esclavage ? C'est ce dans quoi les Hébreux étaient, en particulier, quand ils étaient esclaves en Égypte. Quand ils étaient esclaves en Égypte. Et que finalement, c'était quoi le sens de leur vie ? Ben, je suis là pour... ma vie, c'est pour travailler pour Pharaon, et puis je vais mourir comme ça. Voilà. C'est ça que le sens de ma vie, c'est vivre, endurer, souffrir, mourir. Et il n'y a pas d'autre sens. Ma vie, elle s'arrête là. Quelque chose de fataliste. Cet esprit de servitude, c'est cet esprit dans lequel on est quand, par exemple, on vient douter de notre identité. Mais est-ce que Dieu est vraiment mon Père ? Est-ce que vraiment Dieu m'aime ? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Quand, par exemple, on vient projeter sur Dieu des choses que nos parents ont fait, par exemple, ils nous ont abandonnés, ils ont été négligents, genre de choses, et on vient dire « mais t'es pas mieux que mes parents » quand on projette des choses comme ça de nos parents sur Dieu. Mais c'est pas Dieu qui a été fait à l'image de nos parents. Nos parents, ils sont à l'image de Dieu, une image qui est plus ou moins parfaite. Mais quand on est dans ces pensées-là, peut-être parfois aussi tu te laisses condamner par le péché. Tu te dis « mais voilà, il y a ça dans ma vie ». Et je n'y arrive pas, ça ne change pas. C'est comme si tu te voyais avec cela tout le temps. Tu te voyais avec cela tout le temps et tu ne vois pas l'enfant que tu es en Dieu. Tu vois ce qui ne va pas chez toi. Et c'est comme si il n'y avait que ça. Tu vois tellement ce qui ne va pas chez toi que tu ne vois même plus que Dieu est ton Père. Et tu retombes sous cet esclavage. Cet esclavage, c'est... quand aussi on continue d'avoir peur de la mort, d'avoir peur de la maladie, d'avoir peur du diable. Paul nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Les Hébreux, ils avaient, pourquoi est-ce qu'ils restaient dans cette condition de vie ? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur de mourir. Et c'est ça qui les maintenait dans l'esclavage. Et combien, quand nous avons peur, combien nos peurs peuvent nous maintenir dans l'esclavage. Et c'est pas ce que nous sommes, non. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage. Nous ne sommes plus sous un esprit d'esclavage. Nous ne sommes plus des enfants de colère. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons reçu cet esprit d'adoption. Quand parfois nous pouvons même douter de notre salut, on peut vivre des choses comme ça où on doute de notre salut. On doute de ce que Dieu a fait pour nous. Estelle, elle pourrait vous témoigner qu'à un moment, elle a été, je ne sais pas si je peux dire habitée par ce doute, mais à un moment, elle a reçu le baptême, elle avait 14 ans, et puis c'était à un moment où, dans l'église où elle était, plusieurs se baptisaient, dont sa meilleure amie. Et comme sa meilleure amie se baptisait, le pasteur est venu la trouver en lui disant « Et toi, tu ne te baptiserais pas ?» Et du coup, Estelle s'est faite baptiser, mais à un moment, elle s'est dit « Mais est-ce que c'était juste, finalement, ma démarche ? Est-ce que c'était ma propre conviction ? Est-ce que c'était vraiment moi qui ai décidé cela ?» Et puis voilà, elle a été dans plein de doutes par rapport à ça. Et puis, un jour, on est allé dans une église à Paris où il y avait un missionnaire qui était là, qui apportait vraiment une prédication puissante et il était missionnaire en Chine et il nous parlait de tout ce qui se passait en Chine à ce moment-là. Et c'était tellement fort et à un moment, il a invité les personnes à se lever. Il avait parlé des dons et dû parler en langue. Et il invite les personnes à se lever et à venir pour recevoir le parler en langue, ceux qui ne l'avaient pas. Et Estelle, elle n'avait pas le parler en langue, alors elle s'avance. Et elle était au milieu de tout le monde comme ça et le prédicateur était en train de prier, sauf que Estelle n'a pas reçu le parler en langue. Elle n'a pas reçu le parler en langue. Mais au lieu de ça, ce qu'elle a reçu, avec toutes les questions et les doutes dans lesquels elle était, c'est « Ne t'inquiète pas, tu es sauvée. Je suis ton père et tu es ma fille. » Et elle l'a entendu même audiblement. Waouh! Tu n'es plus sous cet esprit, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu as reçu un esprit d'adoption. C'est tellement puissant, l'adoption. L'adoption, finalement, c'est... Effectivement, c'est... La parole le dit, et parfois, on ne le sent pas, on ne l'éprouve pas. Mais ce n'est pas une question de ressenti. L'adoption, c'est... On réalise de plus en plus qu'on est enfant de Dieu par la foi. C'est la foi, l'adoption, elle s'obtient par la foi, elle s'acquiert par la foi, elle se vit par la foi, par cette confiance que l'on cultive, que l'on est enfant de Dieu. C'est comme un muscle, la foi. On l'exerce, il y a des moments où on doute. C'est dans ces moments-là qu'on va être amené aussi à choisir de faire confiance. L'adoption, ça s'acquiert par la foi. Quand des parents qui n'ont pas d'enfants viennent pour adopter, qu'est-ce qui fait qu'ils vont être parents adoptifs de cet enfant ? Et que cet enfant, par la suite, va vraiment se sentir enfant de ses parents ? C'est qu'ils viennent voir un représentant de l'État, et ce représentant de l'État, il va signer, voilà, devant la loi, vous êtes les parents de cet enfant, et cet enfant est votre fils ou votre fille. Et le Saint-Esprit, eh ben, c'est comme le représentant de l'État. C'est comme le représentant de l'État qui vient signer. Et il y a une signature dans le ciel, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, il y a une signature dans le ciel comme quoi tu es enfant de Dieu. Le Père, il n'y a pas eu besoin qu'on lui dise « Voilà, que nous sommes ses enfants, lui, c'est bon, il le sait. » Et c'est parce que ses parents, quand je reprends cet exemple des parents adoptifs, c'est parce que ses parents, il y a cette signature et qu'ils vont se savoir parents, que du coup, l'enfant, il va pouvoir grandir. Il va pouvoir les considérer comme ses parents, effectivement. parce que ses parents, ils seront calés là-dessus, sur le fait qu'ils sont ses parents. Et c'est ce qui va faire que cet enfant, il va pouvoir grandir en tant que leur enfant. Et c'est la même chose pour nous. C'est parce que nous avons l'esprit d'adoption, c'est parce que l'esprit est là, il vit en nous, que nous allons pouvoir grandir. Quand finalement nous retournons sur cet esprit de servitude, nous retournons sous cet esclavage, c'est comme si cette croissance en Dieu, elle était arrêtée, elle était interrompue. C'est comme si on oubliait que Dieu était notre Père. Et en fait, l'Esprit, il est continuellement en nous et il vient rétablir ce lien. Il vient rétablir ce lien et c'est grâce à cela que l'on peut continuer de grandir en tant qu'enfant de Dieu. Je disais tout à l'heure que je crois le plus grand privilège de l'adoption, c'est justement qu'on a un modèle à qui on peut s'identifier. Un enfant, c'est comme ça qu'il grandit. Un enfant, il va s'identifier, c'est-à-dire il va prendre des traits chez ses parents. Il y a des fois, il y a des traits qui sont pas très bons, et puis il y a des traits qui sont bons, et voilà, mais c'est comme ça qu'il va se construire. Et même quand on est adulte, on continue de se construire comme ça, on va choisir des modèles, mais c'est d'autant plus vrai quand on est enfant et quand on est ado. Et on a besoin de s'identifier, et là, on a le Père Céleste à qui s'identifier, par Jésus. Et c'est ce qui fait que, comme on a ce privilège, c'est ce qui fait que l'on peut grandir spirituellement, qu'on peut se développer spirituellement. Et comme le dit Paul, c'est ce qui fait qu'on peut crier « Abba, Père !»« Papa, Père, à Dieu !» On peut dire « Papa, à Dieu !» Un enfant qui vient dire « Papa » à son père, il vient dire « Papa !» Il vient dire « Papa » parce qu'il est enthousiaste, parce qu'il le reconnaît vraiment comme son père. Pour lui, c'est naturel. Et il vient dire « Papa » dans la joie, avec cette joie d'être son fils, avec cette joie de savoir aimé, de savoir reconnu. Mais un enfant aussi, il dit « Papa » quand il est « Papa, au secours !»« Papa, au secours !» Ça peut être ça aussi, ce cri « Papa, Père, Papa, au secours !» Et son père est là, il l'accueille. Et Dieu fait comme ça avec nous. Est-ce que tu as déjà dit « Papa » à Dieu ? Tu as déjà dit papa ? Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Papa ! Papa ! Papa ! Merci papa ! Merci papa pour qui tu es ! Parfois on n'ose pas forcément l'appeler comme ça. Et pourtant c'est ce que vient nous montrer Jésus. Et on s'identifie au Père et Paul nous dit, je vous le lis, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Messie, si du moins nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Si du moins nous souffrons avec lui. Imiter le Père, s'identifier au Père, ressembler au Père, ça va jusqu'à vivre effectivement des souffrances pour notre foi, des souffrances pour notre foi parce que c'est tellement puissant. C'est tellement puissant de se savoir adopté par Dieu, par le Père, parce que vous allez ressembler de plus en plus à lui, que le monde ne veut pas, l'esprit du monde ne veut pas que l'on réalise ça. L'esprit du monde veut nous enlever ça, et donc il y a les persécutions, il y a les souffrances. Ça veut dire cela aussi, ressembler à Dieu comme Père, avoir le Père céleste comme modèle. Et c'est tellement puissant ce qui peut nous transformer quand on réalise qui l'on est vraiment. Est-ce que tu as réalisé qui tu es vraiment ? C'est tellement puissant. Je voudrais vous raconter le témoignage de Joyce Meyer. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Joyce Meyer qui a un témoignage assez... Alors, je vous préviens, c'est assez difficile. Hein. Joyce Meyer, elle a connu l'abus de la part de son père jusqu'à ses 18 ans. Donc... jusqu'à ses 18 ans, et puis malgré tout, alors elle, si vous allez écouter le témoignage, vous, voilà, c'est difficile ce qu'elle raconte à entendre, et malgré cela, elle a pu, grâce à la foi en Dieu, elle a pu se construire, elle a pu se protéger après ses 18 ans, elle continuait de voir ses parents, mais voilà, la relation c'était au strict minimum, elle a pu se protéger, elle a pu se construire, elle a pu vraiment être restaurée. Après, c'était terrible ce qu'elle avait vécu. C'était beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et Dieu lui a permis, elle a trouvé en Dieu un père. Elle a trouvé en Dieu un père. Ce père qui l'a aidée aussi à faire le deuil du fait que elle aurait jamais, elle, un papa physique qui la prendrait sur ses genoux, qui lui ferait un câlin, auprès de qui elle viendrait chercher un câlin, sans qu'il se passe quoi que ce soit, en étant respectée. Voilà, elle a pu renoncer à tout ça. Elle a pu faire de Dieu son père et grandir avec cette conscience, cette foi que Dieu est son père. Et aujourd'hui, elle témoigne, elle prêche l'évangile à des foules. Et un jour, elle dit aussi un jour que ses parents vieillissaient et étaient tombés malades. Et là, Dieu lui dit, maintenant, je voudrais que tu t'occupes de tes parents. Je voudrais que tu t'occupes de tes parents. Elle dit, quoi ? Mais tu rigoles, quoi ? Tu rigoles ? Mais ils n'ont rien fait pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi ? Ils t'ont donné la vie. Et pourquoi je devrais ? Pourquoi je devrais faire quelque chose pour eux ? Parce qu'ils sont vieux et malades. Et c'était très difficile à entendre. Mais si Dieu lui a... Alors attention, je ne dis pas que Dieu il demande ça à toutes les personnes qui ont vécu des abus. Ça, c'est le cheminement personnel de Joyce Meyer. Et si Dieu a demandé ça, c'est qu'à un moment, il a jugé qu'il y avait quelque chose qui était possible. Et effectivement, Joyce Meyer, elle a obéi. Et elle peut témoigner qu'en même temps, son père, il était aussi mauvais, toujours aussi mauvais que lorsqu'elle l'avait connu avant. Il ne changeait pas. Il allait de temps en temps à l'église avec eux, au fait. Mais il ne changeait pas. Un vrai serpent, dit-elle. Un vrai serpent. Et jusqu'au jour où sa mère l'appelle, elle lui dit, il faudrait que tu viennes avec ta sœur, il y a votre père qui veut vous voir. Et là, elle y va. Et elle voit son père en pleurs, complètement effondré, qui est en train de lui dire, mais je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Et il dit, mais si j'ai pu être touché comme ça, c'est de voir comment tu as été gentille avec moi, comment tu t'es occupé de moi finalement, malgré tout ce que je t'avais fait. Et son père a donné son cœur à Dieu. Et là, il a pu commencer à devenir un homme différent, un homme nouveau. Vous voyez la force de l'adoption, la puissance de l'adoption. Quand on se sait aimer notre père, jusqu'où on peut aller, le mal le plus effroyable qu'on peut pardonner. C'est complètement fou. Et Joyce Meyer peut témoigner de ça. Et puis quelques temps après, peu d'années après, il est décédé. Mais voilà, il avait été touché par ce qu'il avait vu chez Joyce Meyer, le père qu'il avait vu. Parce que quand finalement on prend conscience de qui on est dans le père et qu'on se sait adopter, c'est cela que d'autres vont voir en nous. C'est cela que d'autres vont voir en nous. C'est ce qui nous permet de témoigner du Père aux autres. Il y a aussi ce témoignage d'un homme qui s'appelle Charlie, qui a été abandonné, qui a vécu... Ses parents ont divorcé, il était tout petit. Et il est resté à l'âge de ses 8 ans, sa mère l'abandonne, elle le laisse chez son père, et il ne la verra plus jamais revenir. Et là, donc, il est chez son père. Et chez son père, il n'y a jamais de photo de lui. Son père s'est remarié. Il n'y a pas de photo de lui. Il n'y a que des photos de son père et de sa nouvelle femme. Il n'y a pas de photo de lui. Donc, c'est un autre abandon où il se sent abandonné par son père et émotionnellement, affectivement. Sauf que sa belle-mère, elle est chrétienne. Sa belle-mère, elle est chrétienne. Et elle va lui témoigner de qui est Jésus. Elle va lui témoigner de qui est le Père, il va voir le Père en elle au travers de son témoignage. Et finalement, il va se convertir, il va rencontrer Jésus-Christ. Aujourd'hui, cet homme est chrétien et il a rencontré Dieu en tant que Père. Il y a vraiment une puissance dans l'adoption. Est-ce que tu crois? Comment crois-tu que Dieu est ton Père? Est-ce que tu es toujours sous cet esprit de servitude? Est-ce que tu es toujours sous cet esprit d'esclavage? Comment as-tu confiance que Dieu est ton Père? Dans quelques temps, nous allons vivre, Sylvie vous en a déjà parlé, le turning. C'est une semaine de mission en fait. Une semaine de mission, on va partir pendant une semaine, on va vivre des soirées de louanges, des soirées où on va pouvoir justement se remplir de l'amour du Père, réaliser à quel point nous sommes ses enfants, adoptés, aimés. Et du coup, la journée, ceux qui seront là, on ira, ceux qui ont participé à ces soirées, on ira la journée du lendemain au contact des personnes. Alors, il a été parlé d'évangélisation. Effectivement, c'est une semaine d'évangélisation, mais je dirais que c'est plutôt une semaine de mission. Une semaine de mission où, finalement, on va aller au contact des personnes, leur dire, voilà, nous représentons des églises qui avons un projet ensemble, on a envie de parler de la foi avec les personnes, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, bon, je veux vous dire que Dieu vous aime, ce genre de choses, pour qu'après, voilà, on puisse avoir un contact avec la personne, et après, la personne qui aura un contact avec cette personne-là, le chrétien qui aura eu un contact avec cette personne, après, il l'accompagnera au travers de plusieurs rencontres, de quelques rencontres, dans ses premiers pas avec Jésus-Christ. Mais ça, on va pouvoir le vivre parce qu'on réalise que Dieu est notre Père. C'est pour ça que ces soirées qu'on appelle d'immersion, on va s'immerger dans l'amour du Père, elles sont importantes. Alors, comment est-ce que tu crois que Dieu est ton Père? Comment as-tu confiance que Dieu est ton Père? Et dans quelle mesure tu veux aussi aller chercher finalement les autres enfants du Père? Les autres enfants, c'est cela qu'on va faire quand on va aller essayer de rentrer en contact avec les personnes. Il y a plein d'enfants. Dieu a plein d'enfants qui ne savent pas encore qu'il est leur Père et qu'il veut retrouver. Et ça passe par nous. Ça passe par le fait de réaliser à quel point nous sommes ses enfants, à quel point il nous aime, à quel point il est notre Père. Je vais prier. Prions ensemble. Ouais, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de réaliser à quel point tu nous aimes. Nous avons besoin de réaliser le Dieu que tu es, le Père que tu es, celui à qui on peut dire papa, qui est un Père tendre, qui est un Père parfait. J'appelle vraiment, Seigneur, ta révélation en chacun de nous maintenant. Par ton Saint-Esprit, je proclame ta révélation en chacun de nous. Que celui qui n'a pas pu rencontrer Jésus-Christ, qu'il puisse vraiment t'ouvrir son cœur maintenant. Qu'il puisse t'ouvrir son cœur et regarder sa vie avec toi. Et qu'il puisse vraiment voir combien tu l'aimes, que tu es mort pour lui. Que tu es mort pour lui, que tu as donné ta vie. Jésus est mort pour toi parce que Dieu veut être ton Père. Il t'a donné sa vie parce que Dieu veut être ton Père. Et tu peux lui donner ta vie, tu peux l'accueillir dans ta vie. Je te remets, nous tous, Seigneur, qui avons accueilli Jésus-Christ, je te prie qu'on puisse plus réaliser encore à quel point Dieu est notre Père. Dans le nom de Jésus, je brise tout lien avec cet esprit de servitude, cet esprit d'esclavage qui peut être encore sur les vies. Et Seigneur, je proclame cet esprit d'adoption. Viens, Saint-Esprit, fais-nous réaliser à quel point nous sommes aimés du Père. À présent, on va vivre le repas du Seigneur avec le groupe de louanges. On va vivre ce repas du Seigneur dans la louange. Dans la louange où on va proclamer que Dieu est notre Père. Et il y a cette signature dans les cieux, il y a cette signature dans les cieux de la part du Saint-Esprit comme quoi Dieu est son Père. Et ça s'est fait à quel moment, ça? Ça s'est fait au moment où Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et c'est ce que nous rappelons par le repas du Seigneur, par ce repas que nous allons prendre, par ce pain que nous allons manger qui représente son corps, par ce breuvage que nous allons boire et qui représente son sang. C'est ce que nous allons rappeler, que ça, ça a été signé. Ce repas du Seigneur, c'est pendant la louange que voilà, je vous invite à venir prendre ce repas. Prendre ce repas au moment où vous, voilà, vous allez voir ce qui va se passer en vous, ce que Dieu veut faire avec vous, mais par rapport au fait qu'il soit votre Père, bah, que vous puissiez prendre le repas du Seigneur au moment où, voilà, où ça vous parle, quoi. Ce qui a été dit, ça vous touche. Je vais prier et puis on va rentrer dans ce moment de louange. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ton corps qui a été livré à la croix. Je te remercie pour ce pain qui le représente, que je bénis en ton nom, que je sanctifie en ton nom. Je te remercie pour, Seigneur, ce sang, ton sang qui a coulé et qui est représenté par ce breuvage que nous allons boire. Merci, merci Seigneur, je le sanctifie en ton nom. Et Seigneur, je te remercie pour ce que nous allons vivre maintenant. Fais-nous rentrer dans cet amour du Père. Fais-nous rentrer dans cet amour du Père. Amen.